Radio Classique, les spécialistes.
Les spécialistes sur Radio Classique avec Anne Sénéquier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin, psychiatre, pédopsychiatre, chercheur à l'Institut IRIS, Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Bienvenue sur Radio Classique. 250 millions de personnes dans le monde sont en situation d'insécurité alimentaire aiguë. C'est le dernier stade avant la famine, selon un rapport de plusieurs grandes agences internationales. De quoi parle-t-on exactement ?
On parle de situations familiales où il n'y a plus de capacité à être dans la possibilité d'amener à manger sur le repas pour tous les gens. Donc on risque d'avoir des malnutritions, un excès de mortalité ou énormément de pertes sur le bétail et les capacités de nourriture de la population. Donc je pense qu'il faut développer le terme justement insécurité alimentaire, oui. C'est-à-dire que nous n'avons plus la sécurité d'avoir un repas suffisant pour assurer la bonne santé de la famille tous les jours.
D'où viennent ces famines ou quasi-famines qui touchent surtout le Congo, l'Éthiopie, l'Afghanistan, mais aussi la Birmanie, l'Ukraine ou encore le Pakistan ?
La sécurité alimentaire, en fait, c'est un concept transversal. C'est pas juste une cause, une conséquence. Et elle va s'appuyer sur plusieurs problématiques. Ça peut être l'agriculture, ça peut être les causes environnementales, la guerre, l'économie ou même la santé elle-même. Et en fait, ce que l'on remarque, c'est que souvent, on a une combinaison de ces plusieurs facteurs. Et actuellement, effectivement, c'est ce que l'on note dans ce rapport sur 58 pays qui ont été évalués cette année contre les 53 il y a deux ans. On note 27 pays sont en crise alimentaire suite à la guerre en Ukraine, 19 pays suite à d'autres conflits, 12 pays suite aux événements météorologiques extrêmes et les autres vis-à-vis de l'économie, c'est-à-dire les conséquences de la pandémie parce que
la pandémie a encore des effets persistants, c'est assez frappant.
Comment ?
La pandémie de Covid-19 a encore des effets persistants en matière de sécurité alimentaire.
Oui, absolument, parce que finalement, il y a eu une perte du travail informel, il y a eu une perte justement de la sécurité financière. Aujourd'hui, en fait, on a encore effectivement des conséquences, puisque ça a jeté des millions de personnes dans l'extrême pauvreté. Et à partir du moment où on perd sa capacité de travail, où on perd justement son bétail ou ses terres, finalement, on n'a plus la capacité par la suite à assurer la sécurité alimentaire de cette famille. Donc oui, ça a encore des conséquences très importantes.
Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui des cas de famine ou d'insécurité alimentaire provoqués par des dirigeants qui affament leur peuple ou un peuple ennemi ?
Malheureusement, ça a été encore très très présent. Il n'y a pas si lointain que ça des pays qui justement n'acceptaient pas l'aide alimentaire pour justement avoir après des aides plus importantes financières comme peuvent l'avoir les programmes du PAM ou de l'ONU. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'on voit aussi vis-à-vis de cette sécurité alimentaire généralisée aujourd'hui, c'est que les fonds du programme alimentaire mondial ne sont pas couverts dans leur totalité pour l'année qui vient de se passer et du coup ont été obligés de couper justement des programmes d'aide à la population. Donc oui, ça existe encore et ça a été
une des causes de la progression de ces chiffres.
Stratégie de certains pays, notamment en Afrique de l'Est ces dernières décennies. Aujourd'hui, c'est une combinaison de tout cela, moins heureusement sur le côté politique, mais finalement, on a tellement de différents causes que on a quand même cette augmentation d'insécurité alimentaire ces dernières années.
Anne Sénéquier, vous avez commencé à l'évoquer. Quelles sont les conséquences de cette insécurité alimentaire, notamment pour le développement des enfants ? 150 millions d'enfants concernés.
Chez les enfants, il y a une particularité, c'est de savoir si on est sur une sous-alimentation aiguë ou si on est sur une sous-alimentation qui dure. Et c'est là où c'est problématique. Alors quand on est sous une sous-alimentation aiguë, on tombe véritablement dans des problèmes de santé parce que ça va générer une plus grande vulnérabilité aux problématiques de maladies infectieuses. Et le corps, pour s'adapter à cette sous-nutrition, va fermer les différents systèmes au fur et à mesure. Donc on va arrêter de courir. on va arrêter de jouer, on va arrêter de faire quoi que ce soit d'ailleurs à un moment donné. Et on va avoir des enfants apathiques qui vont rester sur leur natte et attendre que ça passe. Et ça, quand ça persiste, c'est problématique parce qu'un enfant, ben, ça apprend par le jeu, ça se développe par le jeu et par l'expérience. Et on peut avoir justement des déficits cognitifs, intellectuels et même de développement physique qui vont perdurer jusqu'à l'âge adulte. Et on aura finalement toute une génération qui n'aura pas atteint son potentiel maximum. Donc, c'est un problème pour la personne lui-même, bien sûr, c'est un problème pour sa famille, mais c'est un problème pour le pays aussi, parce que les études montrent qu'en termes de PIB pour la génération qui est en train de là d'être enfant et qui sera adulte la prochaine, dans 10-20 ans, finalement, il y aura une diminution de cette capacité à générer un salaire correct qui permet de faire vivre la famille de cette personne devenue adulte. Donc
bien on sûr.
Voit que ce qui se passe aujourd'hui peut avoir des conséquences sur la génération suivante également.
Quand on dit que ces 250 millions de personnes ont besoin d'aide urgente, quelle aide est la plus utile et efficace? Est-ce que c'est de l'aide en nature pour les besoins les plus immédiats, l'aide financière? Vous avez parlé du programme alimentaire mondial. Est-ce que c'est de l'aide au développement pour l'agriculture locale?
Concrètement, il n'y a pas une solution simple que l'on peut appliquer partout. Donc, quand on est comme ça dans une période où on est tellement proche de la famine que dans le premier temps, ce qui est nécessaire, c'est justement d'apporter des intrants et de pouvoir amener quelque chose à manger sur la table. Après, il faut prendre en considération le pourquoi on arrive dans cette situation-là, et c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Si on est sur des conflits, il va falloir travailler sur des programmes de maintien de la paix ou de résolution. Si on est sur des événements météorologiques extrêmes, il va falloir travailler sur l'adaptation et la résilience des populations, généralement les camps de déplacés, parce que souvent, ces personnes ne restent pas dans cette même région. Ils vont aller dans d'autres, donc il faudrait les aider à justement se réinstaller dans d'autres sécurités. Quand on est dans des problèmes économiques, eh bien, il va falloir apporter sur des programmes soit de microcrédit, soit d'autres choses, d'aide à la réimplantation agricole. Donc en fait, il va falloir à chaque région, à chaque pays, voir pourquoi on arrive à cette situation-là et pouvoir jouer sur ces déterminants-là.
Vous avez l'impression que le sujet n'intéresse pas ou pas assez les dirigeants des pays les plus développés, en tout cas moins qu'à d'autres périodes de l'histoire récente?
Malheureusement, on souffre actuellement d'une multiplication de crises. Le changement climatique, on pouvait dire avant c'était là-bas, mais maintenant, en fait, on a aussi à régler les problématiques ici. Il y a la guerre en Ukraine qui occupe les esprits.
C'est une crise parmi d'autres.
Aussi de nos dirigeants. Et du fait, on a toujours des crises qui arrivent sur le devant de la table et qui occultent ce genre de choses. Et c'est vrai que ça passe sous le radar médiatique très très souvent, notamment parce que quelque part aussi les pays où c'est le cas, que ce soit le Yémen, le Soudan, la Somalie, ce sont pas des pays qui ont un tropisme francophone non plus, et qui ont justement un intérêt des médias francophones, mais pour autant, finalement, ça touche à peu près tous les continents, et on voit que depuis jusqu'en 2015-16, on avait réussi à diminuer cette faim dans le monde, et je rappelle que c'est une des cibles des objectifs du développement durable pour 2030, et puis finalement, depuis 2016, on voit petit à petit que ça réaugmente, parce que justement, on n'a plus cette capacité à agir sur ces déterminants.
Et c'est pour ça qu'on avait besoin de vous entendre et vous donner la parole ce matin, Anne Sénéquier, médecin psychiatre, pédopsychiatre, chercheur à l'IRIS. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous dans Les Spécialistes de Radio Classique. Il est 7h49, Hollywood, sans scénariste, ils sont en grève. Marc Bourreau prend la plume dans son journal imprévisible pour nous raconter la grande machine du cinéma.